À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'une Ontarienne, Jeanne Lajoie. Jeanne, descendante d'un monsieur couturier, ils sont des couturiers Lajoie. Mon ancêtre a changé de nom car il était joyeux et c'est le surnom qui est resté. Comme pour les Gérins Lajoie, n'est-ce pas? Alors Jeanne Lajoie, ou couturier Lajoie, est morte en 1930 à 31 ans, toute jeune. Mais c'est une héroïne en Ontario, c'est une institutrice ontarienne qui est vraiment, qui a fait sa marque à Pembroke. Vous direz pourquoi parler de ça? C'est que le cardinal Turcotte a bien parlé de nos écoles qui, sur le plan de la foi chrétienne, particulièrement de la foi catholique, donc sur l'enseignement de la grande histoire du salut, telle qu'on la connaît dans le judéo-christianisme, la foi en l'Évangile, ou du moins les récits de l'Évangile, ce qui est enseigné dans les Évangiles et dans l'histoire de l'Église, à travers les saints aussi, le Père de l'Église, etc. Ça devient complètement étranger à la plupart de nos jeunes, à ce point que toute une culture, finalement, un immense pan de culture qui est le pan de culture peut-être le plus important, à mon avis, le plus important de l'Occident, risque de disparaître de la mémoire et de l'âme de nos enfants. Et Jeanne Lajoie, elle s'est battue tout en défendant la langue française en Ontario. Je prends un récit du frère Urbain-Marie, des frères de l'instruction chrétienne, qui reçoit une lettre à l'époque où il a publié ça, du Monseigneur Anastase Forget, évêque de Saint-Jean-Québec à l'époque, qui lui écrit que Jeanne Lajoie se consacra, écoutez bien, avec conscience à sa tâche, qu'elle éleva à la hauteur d'une sainte mission. Qu'est-ce que c'est que cette sainte mission? C'est celle que nous rappelait le cardinal Turcotte. Apprendre à de jeunes enfants de son peuple l'amour de Dieu et de la patrie. Leur inculquer le culte du Verbe français au milieu d'événements tragiques qu'il fallut fièrement et fermement dominer. L'histoire de Jeanne Lajoie, c'est un épisode du grand drame ontarien. Les gens de mon âge se souviennent, quand nous étions jeunes, on devait envoyer de l'argent en Ontario, n'est-ce pas, pour payer les écoles françaises, qui étaient même pas françaises, elles étaient plutôt bilingues. C'est un grand drame que celui des francophones de l'Ontario, qui sont très nombreux, qui étaient très nombreux, hein. C'est jouer là la survivance de la langue française, puis de nos traditions familiales et nationales. Et Jeanne Lajoie est demeurée sur la brèche. Elle s'est épuisée complètement. Elle a donné un témoignage d'amour à ses compatriotes persécutés. Je pense à ceux qui viennent d'Ontario, qui vivent parmi nous, en particulier M. Gilbert Charon, dont vous connaissez bien l'émission l'après-midi. Son frère, l'abbé Elias Lajoie, qui était l'aîné de plusieurs années, était aîné d'une véritable famille canadienne, puisqu'ils étaient 14 à table dans cette famille. Et Elias Lajoie, prêtre, avait bénéficié des bontés de sa grand-mère. Il a voulu en faire profiter à son tour sa petite sœur, celle qu'il appelle Jeanne Lajoie, une blondinette, 12e enfant de la famille. Petite fille bien faible de santé, mais combien attirante par ses grands yeux bleus, profonds et fort intelligents, écrit-il. Quand on consulte le registre des baptêmes de Saint-Thomas de Lefèvre, vous connaissez peut-être cette ville, Lefèvre, en Ontario, paroisse franco-ontarienne, c'est là qu'est né Monseigneur Joseph Charbonneau, qui a été archevêque de Montréal et qui a marqué l'histoire de l'Église de façon fantastique ici, au lendemain de la guerre. Eh bien, cette ville ou village de Lefèvre est ici à quelques 12 000 de Hawkesbury. On peut lire donc dans le registre que le 4 février 1899, le curé a baptisé Marie-Jeanne Alberta, c'est assez surprenant, Alberta, née le 2 février, fille de Damien Lajoie menuisier et d'Alexina Prou. À 8 ans, elle était tellement malade que le simple fait de se bercer, c'était pour elle comme un exercice violent. Elle risquait de s'évanouir et elle s'évanouissait souvent. À 8 ans et demi, donc quelques mois plus tard, Marie-Jeanne ne peut pas encore accompagner ses frères et sœurs à l'école qui se situait à 1 mille hors du village. C'est trop loin pour elle, mais heureusement, en 1907, les filles de la sagesse ouvrent un pensionnat dans le village même de Lefèvre. Et du coup, Jeanne Lajoie n'est plus qu'à 2-3 arpents de l'école. Ce qui va lui permettre de s'instruire et de devenir institutrice. Son frère prêtre, donc, l'abbé Lajoie, a heureusement laissé chez ses parents une bonne partie de ses livres, et alors Jeanne Lajoie tombe sur une méthode de sténographie, et toute jeune, elle apprend rapidement, comme ça, par elle-même, la sténo, et elle écrit en sténo à son frère. Et puis, en quelques mois, elle décroche un diplôme qui la fait devenir membre de l'Académie sténographique de Montréal. Et, elle a 16 ans, à peu près, et en mai 1917, à 18 ans, sa mère meurt. C'est pour elle très grave, parce que, comme écrit son frère, « je la voyais si courageuse malgré sa grande peine ». Cette petite de 18 ans, qui paraissait en avoir 13 ou 14, devenue maîtresse de maison, veille avec une autorité extraordinaire aux soins du ménage. Et puis, Jeanne Lajoie, donc sa sœur, gère, en dépit de sa santé qui est vraiment débile, une maison où se trouvent encore son père, deux petits frères, puis une sœur cadette. À l'automne 1919, l'archevêque d'Ottawa charge l'abbé Lajoie, son frère, de fonder une paroisse au village de Var. C'est le dernier château fort des orangistes dans le comté de Russell. Et Jeanne, bien contente, se rend donc à Vars auprès de son frère. Et puis, le soin de ce petit presbytère lui laisse pas mal de temps libre. Et comme elle perd jamais une minute, elle apprend la dactylographie, suivant une méthode que lui procure son frère. Comme vous voyez, elle veut toujours s'instruire. Elle perfectionne aussi sa connaissance de la langue anglaise. Puis donc, à Lefèvre, où se sont écoulées son enfance, son adolescence, c'était très différent de l'endroit où elle est rendue, parce que à Lefèvre, il y avait 200 familles, il n'y en avait pas une de langue anglaise. Mais c'est tout le contraire à Vars, V-A-R-S. Sur une 60aine de familles au village, on n'en compte que 6 de langue française. Et bientôt, son frère la voit surveiller attentivement les annonces du journal Le Droit, parce qu'elle veut devenir institutrice. Et justement, on en demande une, alors... elle accepte un terme d'enseignement de février à juin 1921. Elle a donc 22 ans. Et puis, la nouvelle institutrice ne possède aucun certificat. Puis là, elle écrit le 22 avril 1921. Elle a commencé à enseigner. Elle écrit à son frère une histoire tragique. « Mardi midi, j'étais à l'école en train de prendre mon goûter quand j'entendis dehors des cris et des rires de quelques Anglais. » Jugeant qu'il devait se passer quelque chose d'extraordinaire, je me précipite à la porte. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir le feu courir dans le bois voisin avec une rapidité étonnante et bientôt nous encercler à l'école. À force de travail, grâce surtout à l'une de mes élèves, nous avons réussi à préserver l'école. Mais les dépendances sont une ruine complète. Mais Jeanne n'accuse personne. Elle est sans vengeance. Il y a chez elle une foi chrétienne profonde, qui ne lui permet pas de détester qui que ce soit. Mais une chose à tracasser, ce sont ses papiers d'admission pour enseigner. Elle les reçoit finalement, elle obtient ça avec grande distinction. C'est un certificat bilingue de district, ça s'appelait comme ça à l'époque en Ontario, qui est valable pour 2 ans. Vers la mi-août, elle revient chez son frère, après avoir accepté une école au village d'Azilda, situé à 13 000 au nord-ouest de Sudbury. Et là, c'est un petit village qu'elle décrit comme ça. Ça se compose d'un cultivateur, d'un marchand et d'un bureau de poste. Donc, elle enseigne à des enfants de cultivateurs. Elle a 63 élèves dans sa classe. C'est un travail immense. À la fin de cette année scolaire, en 1922, donc, dans chacune de ses lettres, Jeanne avoue qu'elle est très fatiguée. Jamais plus n'acceptera de classe aussi nombreuse. Au début de novembre, Jeanne arrive chez son frère l'abbé Lajoie. Elle est changée, très nerveuse, mais elle se rétablit. À la mi-août de l'année suivante, 1923, elle arrive chez son frère, toute réjouie, à Vars, en répondant à une annonce parue dans le journal Le Droit. Elle s'est engagée pour l'enseignement du français dans la ville de Pembroke, et c'est là que vont survenir tous les événements. Enfin, Elle allait résider dans une belle petite ville. C'est un samedi 1er septembre que Jeanne se rend à Pembroke et le lendemain dimanche, elle assiste donc à la grand-messe à la paroisse canadienne-française Saint-Jean-Baptiste, nouvellement fondée en 1921, sur la demande réitérée là, des Canadiens-français, puis avec leur aide financière, c'est eux qui ont fait construire ça. Puis à sa grande surprise, Jeanne constate que le curé est un Irlandais, Father Sloan, qui parle pas le français vraiment, et que son vicaire, l'abbé McNally, ne le sait guère mieux. Et les messes sont donc prêchées en anglais. Dans une paroisse canadienne-française. Le lundi 3 septembre, c'est la fête du travail. Jeanne Lajoie en profite pour s'installer puis s'informer de tout, pour se préparer à enseigner le lendemain. Elle se rend compte que sur 3500 catholiques, Pembroke compte 1800 Canadiens-français. Soit 55% environ. Et cependant, les deux paroisses sont anglaises. Mais un spectacle dans les deux écoles fréquentées par 360 francophones contre 280 anglophones. Or, sur 6 membres de la commission scolaire, on en compte 5 de langue anglaise. Et dans le quartier français, pour diriger l'école Saint-John, comme on l'appelle, ou les petits, c'est Saint-Jean-Baptiste en fait, où les petits Canadiens français sont 175 contre 85 anglophones, bien, on fait venir une communauté anglaise directement de Peterborough. Elle trouve que c'est vraiment épouvantable. Et pour le gouvernement de l'Ontario à cette époque, ces écoles sont purement anglaises. C'est le règlement 17 que vous avez peut-être connu en étudiant l'histoire de notre pays. Les institutrices qui portent un diplôme bilingue ne peuvent y enseigner. Sauf dans le premier cours au début, pour rendre les débutants, les petits-enfants, aptes à tout apprendre en anglais par la suite. Et cela, Jeanne le sait. Alors, elle sait aussi que le premier article de cet odieux règlement 17 autorise le ministre de l'Instruction publique à proclamer bilingue les écoles renfermant une forte proportion de francophones. Mais il n'est pas question d'en tenir compte. Et le mardi matin, 4 septembre, Jeanne se présente à l'école. La principale s'appelle Sister Beatrix, une Irlandaise, lui fait un accueil froid et lui fait sentir que sa venue comme institutrice française n'est pas agréée, par elle du moins la directrice. Elle dit que it's foolish, c'est de la folie que d'enseigner le français et l'anglais dans la même école. Sans se laisser déconcerter, Jeanne commence la classe et elle va se rendre compte qu'il n'y a rien d'autre à faire que de fonder une école. Une autre école, pour obtenir justice. Donc, ce mardi matin 4 septembre, Jeanne Lajoie se laisse pas déconcerter par Sister Beatrix, et elle commence la classe, et les jours passent, et aucun élève ne vient des autres classes, pour y en avoir d'autres, pour apprendre le français. Alors, le vendredi 7 septembre, Mademoiselle Lajoie va donc trouver la principale et lui dit qu'elle est prête à recevoir ceux qui veulent suivre des leçons de français. Et pour toute réponse, Sister Beatrix lui répond « I'm waiting for orders ». Il lui faut des ordres formels, quoi, pour laisser les petits Canadiens français échapper à ceux qui veulent les angliciser absolument. Sister Beatrix fait ainsi le jeu des gouvernants d'alors, pour qui la force prime le droit. Et Jeanne le voit dès le mardi suivant, le 12 septembre. Au lieu des élèves attendus, l'inspecteur Carey, un Irlandais catholique, entre dans la classe. La loi scolaire ontarienne, dit-il, ne permettant pas la présence dans une même école de deux institutrices munies d'un certificat bilingue, il lui faut choisir entre elles et Sister Saint Joseph, qui aurait, paraît-il, la connaissance du français. Mais d'après Jeanne Lajoie, c'était du Toronto French qu'elle savait. Elle était audacieuse, cette Jeanne Lajoie, qui pourtant allait à la messe tous les jours et qui était profondément pieuse et qui a même songé à devenir religieuse et qui avait beaucoup d'amis religieuses. Alors, il fut décidé de remercier Mademoiselle Lajoie de ses services pour garder Sister Saint Joseph comme étant mieux qualifiée, alors qu'elle ne parle pas vraiment le français. Et cette nouvelle de cette destitution de Jeanne Lajoie se répand bientôt à Pembroke. Ça crée tout un émoi dans la population française de cette ville. Le lendemain, d'un événement, une réunion où s'est discuté toutes sortes de choses, un 8 octobre, donc un mois plus tard, ou un peu moins, elle met l'association d'éducation au courant de ce qui se passe à Pembroke. C'est une lettre qui est insérée dans le droit, qui relate d'une façon objective les faits. Et au grand mécontentement des anglophones, le public est mis au courant de leur complot. Et donc, une lutte scolaire qui s'annonce. Et vous allez voir que cette petite lutte scolaire de rien du tout va changer du tout au tout et va finalement obtenir une certaine justice. Pour les écoles catholiques, la requête en faveur de Mademoiselle Lajoie est signée par 113 pères de famille, est présentée à la commission scolaire le jeudi 18 octobre avec prière de donner une réponse pour le dimanche suivant. On y proteste contre le renvoi de Mademoiselle Lajoie, dûment engagée par la commission scolaire, et qui est diplômée, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'enseignement bilingue dans l'Ontario. Son véritable tort, ajoute-t-on dans le texte, est d'enseigner selon les meilleures méthodes et de ne pas faire le jeu de ceux qui ont perpétré l'anglicisation de ses compatriotes. Je fais une parenthèse, moi, toute ma famille en dehors du Québec a été anglicisée de force comme ça. Ils ne parlent plus français du tout, du tout. On dénonçait l'attitude prise par la principale de l'école qui traite de foolish, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enseignement de deux langues aux enfants. Et par la commission scolaire qui accorde la préférence à une institutrice de langue anglaise qui porte un permis officiel, sans doute, mais qui est reconnue incompétente par l'inspecteur Carey lui-même, petit Irlandais, qui l'avait reconnue. Les Canadiens français, ajoute-t-on, qui forment la majorité des contribuables de l'école Saint-Jean, et non pas Saint-John, où leurs enfants sont 175 contre 85 de langue anglaise, sont plus que blessés par tout ça. C'est terrible pour eux. Ils sont décidés à réclamer leurs droits sur l'éducation de leurs enfants dans une école qu'ils soutiennent de leur argent, alors. Sont prêts, eux qui n'ont pas d'argent, à gratter. Et c'est là une situation que les Canadiens français de Pembroke ne peuvent tolérer, hein, écrit-on. Et ils ne la toléreront pas, hein. C'est Jeanne Lajoie qui le dit. On dit que si le 5 novembre, Mademoiselle Lajoie n'est pas maintenue en fonction, ils prendront les mesures nécessaires pour assurer à leurs enfants l'éducation bilingue à laquelle ils ont droit. Une éducation bilingue, c'est pas nécessairement une école française qu'ils veulent. Du style s'imposer de nouveaux sacrifices. Alors, je trouve extraordinaire tout ça. Et puis, Jean Charpentier, le fameux rédacteur au droit, qui n'a pas entendu parler chez les gens d'un certain âge de Fulgence Charpentier, eh bien, il raconte que les 400 personnes présentes lors d'une réunion du Cercle Lorrain, je pense étant l'honneur de Jeanne d'Arc, ont appris alors que, malgré la foi d'un contrat, toutes les démarches se sont butées au parti pris manifeste d'une minorité irlandaise. Quand la délégation s'est présentée devant la commission scolaire, la réponse était déjà préparée d'avance. Alors, quoi faire? On décide donc de fonder une école dite française, qui est en fait une école bilingue, une école libre à Pembroke. Le jeudi 1er novembre, toutes choses se font vite, une nouvelle réunion au cours de laquelle on fixe l'ouverture de l'école libre au mardi suivant. Et on lui donne déjà son nom, ce sera en l'honneur de Mademoiselle Lajoie, l'école Jeanne d'Arc de Pembroke. L'incident Lajoie était le signal du réveil de la délivrance des franco-ontariens. C'est pour ça que je vous raconte ça. C'est un événement important qui est fait par une jeune catholique fervente qui communie tous les jours pour y trouver la force de combattre. La veille même de l'inauguration de l'école, les assimilateurs anglophones tentent un dernier effort. On n'avait pas le temps, écrit M. Homer Héroux, fameux journaliste au Devoir, le 7 novembre 1923. On se souvient d'Homer Héroux, les gens de mon âge. Hein? On n'avait pas le temps, et l'on avait probablement guère songé à faire de l'ouverture de l'école libre, bilingue, l'occasion d'une grande mise en scène. La petite fête, dans son extrême simplicité, était profondément émouvante, raconte-t-il. Des voix fraîches s'élèvent, dit-il. Ce sont les petits écoliers qui entonnent un hymne à Sainte-Jeanne d'Arc, patronne de l'école. Puis au nom des enfants, des parents, tous agenouillés, l'institutrice, Jeanne Lajoie, lit une prière à Jeanne d'Arc. Qui a été récitée, savez-vous, dans toutes les écoles bilingues de l'Ontario. Je vous la récite pour ce que c'est. Ça nous met dans le climat des luttes de cette époque des années 20, et je crois que sur le plan historique, c'est important. C'est une assez belle prière. Ô Christ, ami des Francs, vous qui par le bras d'une humble vierge avez jadis sauvé la France, inclinez vers nous la grande miséricorde de votre Sacré-Cœur. Nous en prions par les mérites et l'intercession de la bienheureuse Jeanne d'Arc, que nous choisissons comme patronne. Protégez nos institutions, notre langue et notre foi. Au Christ, notre roi, nous vous jurons fidélité éternelle. Faites que nourris du pain de votre sainte Eucharistie, nous croissions en un peuple parfait, que nous méritions de continuer sur cette terre d'Amérique les glorieuses traditions de la fille aînée de l'Église. C'est l'Église de France, la fille aînée de l'Église, vous savez ça. Ô Dieu de Jeanne d'Arc, sauvez encore une fois la France, sauvez notre cher Canada, et vous, bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous. Ainsi soit-il. Alors les parents et les enfants, racontent au maire Héroux, se sont relevés, puis le président. Un ouvrier âgé, la gorge serrée par l'émotion, les larmes aux yeux, prend la parole et déclare. Un ouvrier, mes enfants, j'ai peine à vous parler aujourd'hui, j'ai trop de joie. On nous fait des éloges, mais celle qui doit être à l'honneur, c'est Mademoiselle Jeanne Lajoie. Elle a réveillé les courages. Nous voulons lutter ici pour la survivance de notre peuple. Petits-enfants, rappelez-vous bien que celui qui dédaigne sa langue et renie ses traditions jette l'outrage à tous nos morts, à tous ceux dont le travail et les sacrifices nous ont fait ce que nous sommes. Nos ancêtres ont trop souffert pour que nous ne maintenions pas leur œuvre. Souvenez-vous de notre histoire. Préparez-vous à la continuer. Nous n'adressons d'insultes à personne. Nous ne voulons faire querelle à personne. Nous travaillons simplement à assurer à nos enfants un avenir conforme à leurs traditions, une éducation digne, du sang qui coule dans leurs veines. Les sacrifices seront grands. Préparons-nous avec un courage renouvelé. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire, ce brave ouvrier. C'est un bonhomme, ça me touche que des hommes puissent parler comme ça quand ils ont si peu d'instruction. Son émotion le rend profondément éloquent, évidemment. Ça rappelle les magnifiques dévouements de certaines des dames présentes. Alors, on se met à louanger Jeanne Lajoie. L'émotion est intense. Et ce bon vieillard, cet homme âgé, prie Mademoiselle Lajoie de prendre la parole et elle dit « J'ai essayé d'accomplir mon devoir et c'est tout. Ce sont les autres qui ont fait le travail. » Et elle termine en disant « Travaillons ensemble pour que les sacrifices de vos parents ne soient pas inutiles. Et vous l'avez promis, n'est-ce pas, mes enfants, mes chers petits-enfants? » Puis, en quelques phrases tassées solides, le secrétaire de l'association fait tout le procès du système ontarien qui, en mettant l'anglais à la base de la formation scolaire des petits Canadiens français, les déforme et les retarde. Et c'est la justification du geste posé par les parents canadiens français de Pembroke. On a vu ce que ça peut donner actuellement ici à Montréal, le geste de nombreuses personnes qui ont protesté contre une certaine émission de télévision dont je vous ai déjà parlé dès le début. Ce sera ce soir à 7h si vous voulez voir encore ce qui se dit d'horrible. Et voici donc Jeanne et ses élèves installés chez eux dans leur école libre, bilingue. Et on écrit, c'en n'était pas un bien évident que celui de faire la classe à une poignée d'élèves dans une salle de 18 pieds par 13. Il fallait un local plus spacieux, plus imposant, où l'on pourrait établir au moins 2 ou 3 classes. Et là, il y a une grande souscription, puis ils vont pouvoir avoir un endroit plus vaste. Mais des témoins affirment que Jeanne Lajoie a eu sa part d'épreuves et de contrariétés. Ça n'a pas été facile. Elle écrit à un moment donné à son frère le 21 janvier 1924, « Dans le moment, je crois que ta présence à Pembroke, ce serait pas une bonne chose. Ça pourrait m'aliéner plusieurs membres influents de la majorité protestante, anglophone. Ah, s'ils découvraient que je suis une priest-ridden. » Alors, elle est drôle, et son frère la taquine dans des lettres, aussi elle dit « Tu me taquines relativement à mes discours », et elle dit qu'elle, finalement, on reconnaît qu'elle a beaucoup d'habileté, et elle est toute surprise d'elle-même de pouvoir parler ainsi en public. Le 18 février 1925, l'année suivante, Father Sloan, le curé de la paroisse, le milingue irlandais, approuvé par Mgr Ryan, l'évêque irlandais, refuse de bénir la nouvelle école bâtie grâce à l'aide de l'Association d'éducation et la générosité des Canadiens français. Il refuse. Alors, le monsieur Alfred Lompré, qui mène le combat, répond par un geste digne de figurer dans une épopée. C'est vraiment les personnages d'autrefois, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se rend à Québec. Il remplit une boîte de terre prise sur les plaines d'Abraham. Puis 15 jours avant la mort du cardinal Bégin, il la lui fait bénir. Et pour répandre cette terre bénite sur le terrain de l'école, on attend le passage des voyageurs, de la bonne entente. C'est comme ça qu'on les appelait. Ils s'en viennent à Pembroke, hein. L'un d'entre eux, M. Albert Chevalier, qui est surintendant de l'assurance municipale montréalaise, vient de Montréal, et il a écrit ses impressions. Je vous lis le texte. C'est très étrange ce qui se passait à l'époque. Il écrit, « Le lendemain matin, il nous retrouve à Pembroke, ville d'environ 7900 habitants, sise au confluent de l'Outaouais et de la rivière aux Ramusqués. Les autorités municipales étaient à la gare pour nous souhaiter la bienvenue. » Ce sont des protestants, évidemment. « Et nous faire vivre la ville presque centenaire qui était toute pavoisée pour nous recevoir. Il était entendu que le comité de réception devait conduire les excursionnistes à l'école Jeanne d'Arc de Jeanne Lajoie. Mais les autorités de la ville, aidés des prêtres irlandais, avaient arrangé leur itinéraire pour laisser de côté cette visite et conduire les visiteurs à la gare juste à l'heure du premier train. Seuls messieurs Bourassa et Proulx, ce dernier député de Prescott à Toronto, et une vingtaine de voyageurs se sont fait conduire presque de force à l'école Jeanne d'Arc où la population canadienne-française attendait depuis le matin avec monsieur Alfred Lompré, président du Cercle Lorrain, et mademoiselle Jeanne Lajoie, l'héroïque petite maîtresse entourée de ses 65 élèves. Les mères de famille, les hommes étant retenus à leur travail, se tenaient au pied de l'estrade. Il ne restait plus qu'un quart d'heure pour la cérémonie. Ils ont dû retrancher les adresses, vous savez, les petits sermons, les petits discours, les chants et les scénettes préparés avec tant de peine par les élèves de mademoiselle Lajoie. Monsieur Lompré a raconté brièvement l'histoire de Pembroke et de ses écoles, où même l'enseignement du catéchisme devait se faire en anglais. Et ce, avec l'approbation des autorités diocésaines irlandaises. C'est grâce à l'héroïque petite maîtresse d'école Jeanne Lajoie si la langue française vit et vivra dans cette partie du pays. Elle fait face à tout avec une volonté et une énergie inlassable, dit-on. Alors, c'est un patriotisme à toute épreuve qu'elle a, qu'elle puise dans l'Eucharistie. Elle fait reculer les forces ennemies composées du clergé irlandais de l'époque, de la commission scolaire des écoles séparées de Pembroke et des autorités municipales de la ville. Il y a un monsieur, l'abbé Marsan, qui, après avoir épandu sur le terrain de l'école la terre bénite par le cardinal Bégin qui venait des plaines d'Abraham, déclare, c'est typique de l'époque, écoutez ça, c'est un petit discours incroyable. « Terre imbibée du sang de nos pères, terre qui fait se reproduire la résurrection de la race, terre revanche de 1759. » Oui, nous nous revancherons, c'est curieux ce verbe, en faisant régner partout la langue française, l'influence française, la religion catholique, la religion et la langue de nos ancêtres, les premiers habitants de ce pays. Moi, je trouve ça émouvant quand même. Vous savez, ces récits d'autrefois nous rappellent bien des choses. Les combats, mon Dieu, des Ukrainiens, les combats des Polonais, les combats de tant de gens qui sont venus vivre ici et qui, malheureusement, souvent ont choisi la langue anglaise. Malgré son extrême fatigue, donc, mademoiselle Jeanne Lajoie réussit à se rendre tant bien que mal aux examens de juin, puis le lendemain, on la trouve inconsciente sur le plancher de sa chambre. Sa santé est affectée. Le médecin lui annonce que ses poumons sont très faibles et qu'elle devra prendre une longue cure dans un sanatorium. Et où aller? Elle n'a que quelques dollars. Mais après des tergiversations, on lui fait un passe-droit, puis le 20 septembre d'après-midi à Montréal, elle est munie de toutes les formalités, et Jeanne Lajoie entre au sanatorium du Sacré-Cœur à Cartierville, tout près de Montréal, comme vous savez, à Montréal. Son poumon gauche semble plus atteint que l'autre, car elle ne pouvait demeurer 5 minutes sur ce côté. Elle est très, très mal. Vers la mi-août 1929... elle était devenue toute décharnée, son timbre de joie n'était plus le même. Et puis, le 29 janvier 1930, elle écrit à son frère un simple mot sur une carte, parce qu'elle est épuisée, elle va mourir. Sortie de l'hôpital le 24, heureuse, heureuse. Mon adresse, 1650 rue Papineau, Montréal. Elle est donc dans la paroisse du Sacré-Cœur. J'ai déjà rentré à la paroisse Sacré-Cœur, rue Ontario. comme une basilique, une cathédrale. C'est de toute beauté dans un sens. Je m'excuse, je mentionne que mon fils aimait beaucoup faire des détours pour rentrer dans cette église et y prier, tellement il était impressionné par le grand rétable. Alors, par précaution, un vicaire de la paroisse Sacré-Cœur vient administrer les derniers sacrements à Jeanne Lajoie. Dans la dernière semaine de février, à la veille de sa mort, son frère se rend de nouveau auprès de Jeanne. Il ne cesse pas de partir d'Ontario pour venir la voir. Et puis, les louanges l'énervent, dit-elle, c'est ce qu'elle dit à son frère. Mais j'ai fait là un acte tout naturel à Pembroke. Personne autre, ayant un peu de cœur, il me semble, dans la poitrine, n'aurait pu faire autrement. Pour elle, c'est tout simple. Monsieur le curé Lajoie, son frère, donc, doit reprendre le train avec l'intention de revenir dès le dimanche suivant, après la grand-messe, mais à l'issue de cette messe du dimanche 2 mars, qui est l'anniversaire aujourd'hui, il reçoit un téléphone qui lui annonce le dénouement. En effet, durant la grand-messe, Jeanne Lajoie a remis son âme à Dieu en possession de toutes ses facultés intellectuelles et en priant. Jeanne Lajoie avait elle-même choisi l'heure la plus matinale pour son service funèbre. Elle voulait un service très, très simple. Ça a été chanté par son frère à l'église du Sacré-Cœur à Montréal le mardi matin 4 mars 1930. C'était la veille du mercredi des cendres. On l'a enterré au cimetière de la Côte-des-Neiges, selon qu'elle avait exigé dans le lot des pauvres. Et sous la signature de M. François Bérubé, on peut lire dans le droit du 6 mars 1930, ce témoignage. Je vous en lis un bref extrait. Mademoiselle Jeanne Lajoie est morte à Montréal dimanche matin, le 2 courant. 4 années de maladie, de pénible réclusion. Ont enfin eu raison de ses énergies. Sa tombe est fermée, il n'en reste que le souvenir ému de ses vertus, de son ardent patriotisme et de son héroïsme, qui vivra dans les mémoires comme dans les plus belles pages de l'histoire de nos lieux scolaires. Les Canadiens français de Pembroke, plus particulièrement, et tout le Canada français, lui doivent un tribut de reconnaissance dont ils ne pourront guère s'acquitter. 3 années d'une conduite exemplaire. 3 années d'un enseignement fructueux où toutes les fatigues étaient oubliées. 3 années d'un travail surhumain au milieu des Ontariens, au seul bénéfice des petits Canadiens français qu'elle portait dans son cœur héroïque. Tout cela n'était plus qu'il n'en fallait pour lui attacher tous les cœurs, avec la reconnaissance durable de toute la population. Au chapitre 12e de l'éveil de la race, comme on disait à l'époque, l'auteur, M. Alfred Lompré, dont je vous ai parlé, s'exprime ainsi. Ce qui fait la valeur d'une cause, c'est le désintéressement dont on l'entoure. Et sur ce point, Mademoiselle Jeanne Lajoie s'est montrée désintéressée jusqu'au suprême degré. Sa vision nette des choses lui suggérait des conseils dont on profitait avec reconnaissance. Sa modestie, son humilité étaient extrêmes. En classe, elle captivait ses élèves avec une diction impeccable, sa bonne tenue, son esprit de justice, son amour des enfants, surtout sa piété et sa flamme patriotique. Avec cela, une volonté de faire. Quand Mademoiselle Lajoie connaissait son devoir, elle n'hésitait plus. Ses obsèques, celles des pauvres, n'ont fait aucun bruit alors qu'elle aurait dû avoir des funérailles nationales. C'est ainsi que tombe dans l'oubli des personnes admirables. Jeanne Lajoie puisait sa force d'âme dans sa grande piété. Jusqu'à l'âge de 13 ans environ, elle n'a pas pu communier aussi souvent qu'elle aurait désiré à cause des évanouissements qui lui arrivaient à tout moment. Mais par la suite, elle a repris, pour ainsi dire, le temps perdu. Elle avait aussi une grande dévotion envers Saint Joseph, puis aussi envers Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nouvellement canonisée. Que dire de sa patience aussi, au milieu des tourments. Les tourments terribles qui ont précédé sa mort, elle a enduré ça avec une résignation admirable au dire de tous ceux qui l'ont soignée. Jeanne avait, dès le bas âge, compris la vanité des choses de la terre. Aussi, il n'y a rien qui l'humiliait autant que d'entendre ses compagnes là-bas qui étaient hospitalisées, qui ne rêvaient que d'aller s'amuser si elle guérissait. Elle disait, « Si le bon Dieu me rend la santé, ce sera pour continuer à faire tout le bien possible. » Elle se dérobait aux compliments. Elle était toute surprise de ces cris d'admiration qui montaient vers sa personne quand il y avait une foule. Elle aurait préféré la paix. Et tout ce bruit, à tout ce bruit de guerre qui se faisait autour d'elle pour défendre les écoles françaises. Elle disait n'avoir rien pu accomplir de ce devoir sacré, comme elle appelait ça, que par le concours inlassable, alarmé parfois, puis irrésistiblement fidèle. Des cœurs, disait-elle, qui savaient la comprendre et chérir des choses pour lesquelles elle eût aimé mourir. Je vous rappelle que le trisaïeul de Jeanne Lajoie, Nicolas Couturier, le même nom que ce vicaire de la cathédrale ma paroisse, Jean-Pierre Couturier, nouveau prêtre, eh bien, il a reçu le surnom qu'ont gardé ses descendants, Lajoie, à cause de son esprit de camaraderie et de bonne humeur. Les couturiers sont en effet, je pense, des gens joyeux. Il y a des pourparlers qui se poursuivent entre les contribuables canadiens français, catholiques, et la commission scolaire anglo-protestante, dont ils dépendent. La commission scolaire concède tout d'abord l'enseignement du français jusqu'en troisième année primaire. Avant ça, c'était simplement la première année pour faciliter les petits-enfants, l'accueil des petits-enfants francophones pour qu'ils deviennent anglophones. Là, on accepte jusqu'en troisième année. On écrit que c'est nettement insuffisant, du moins pour créer dans un jeune cerveau une mentalité semblable à celle de ses pères et de ses ancêtres. Songez, écrit-on, au milieu spécial où nous vivons, à l'école Saint-Jean de Pembroke, nos élèves, passant leur récréation avec les petits Anglais, se servent uniquement de l'anglais, sauf quelques cas isolés. En pareille circonstance, nos enfants ne pourraient apprendre convenablement leur langue maternelle si le cours français ne se prolonge pas tout le long des études. Alors plus tard, la commission anglo-protestante offre l'enseignement de notre langue française au quatrième cours, quatrième année maintenant. Mais les élèves doivent être présentés aux examens d'entrée dans la seule langue anglaise. Et d'autre part, les droits des Canadiens français sont mal définis. Et tout contrôle leur échappe sur l'enseignement puis la formation donnée à leurs enfants. La proposition n'est donc pas satisfaisante. Les contribuables de l'école Jeanne d'Arc, fondée par Jeanne Lajoie, sont chagrinés par tout ça, parce qu'ils savent que ce n'est qu'en gardant leur unité, malgré la multiplicité des opinions. Alors seul le chef parle au nom de tous. Puis au fond, c'est extrêmement consolant de se le rappeler, tous veulent d'abord sauver la langue et la foi de leurs enfants. Après 4 ans de lutte incessante, la commission scolaire anglo-protestante finit par céder en août 1927, et cette victoire en provoque d'autres sur divers points du territoire ontarien. C'est pour ça que je vous ai raconté ça, parce que c'est très important. Tant et si bien qu'à la fin, l'odieux règlement 17 a fini par sauter. C'est un règlement d'assimilation totale, raciste, comme on peut difficilement en imaginer dans un pays civilisé. Si modeste qu'il soit, donc, le petit grain de sable, Jeanne Lajoie, peut suffire parfois pour détraquer une puissante machine. Hein? La vaillante petite institutrice de Pembroke, tel petit grain de sable, quoi, en se sacrifiant elle-même, elle a arrêté le gigantesque engrenage qu'on avait installé pour broyer à tout jamais l'élément français de l'Ontario. Vous direz que j'exagère, je n'exagère pas, je m'en souviens, mon père me parlait de ça, le devoir en parlait à l'époque. Hein? Un terrain perpétuel, en 1939, a été donné à Jeanne Lajoie au cimetière de la Côte-des-Neiges en face de celui du Grand Séminaire. Je vous donne le numéro 563 de la section G. C'est près d'une allée principale. Et la translation s'est faite un 15 août, fête de l'Assomption de Marie, et jour du sacre de l'archevêque de Montréal, Mgr Joseph Charbonneau, qui est, comme je vous ai dit, né lui-même à Lefèvre, la même ville que Jeanne Lajoie, en Ontario. Et cet évêque, qui a été très bien connu à Montréal et qui a fait sensation comme un évêque d'une grande honnêteté et d'une grande intégrité, a souvent rencontré Jeanne Lajoie. Il l'a très bien connu. C'est un intime ami d'enfance de l'abbé Ilias Lajoie, son frère, curé de Saint-Albert en Ontario. À l'automne 1940, le dernier dimanche de septembre, On a réuni des centaines de patriotes, disons-le, autour de la tombe de Jeanne Lajoie pour commémorer sous le patronage de la Société Saint-Jean-Baptiste et de l'Action catholique des instituteurs de Montréal le 10e anniversaire de sa mort, puisqu'elle est morte en 1930. L'abbé Lionel Groulx a déclaré à ce moment-là « Comment s'explique notre présence ici ? Jeanne Lajoie est une jeune fille que pour la plupart nous n'avons jamais vue. Et dans ce cimetière du Mont-Royal, cimetière Côte-des-Neiges, on l'a jetée dans la fosse commune, les pauvres. Dans l'attente d'une pierre tombale plus digne d'elle, on lui a érigé cette modeste épitaphe. Par quoi donc, en définitive, nous serait devenue si attachante cette figure de jeune fille ? Bien, la réponse, vous l'avez tous sur les lèvres, c'est le prestige de l'héroïsme. Comme tant d'autres, prise de dégoût et de lassitude, Jeanne Lajoie aurait pu tout abandonner. Elle a préféré, dit Lionel Groulx, payer de sa personne. Et si les fleurs morales poussaient comme les fleurs du sol, eh bien, ce sont des lys d'héroïsme qui lèveraient sur cette tombe de jeune institutrice. Eh bien, oui, Jeanne Lajoie a vécu de ses préoccupations élevées. Elle s'est sacrifiée à sa tâche. Il faut posséder le feu du dévouement, t'on dit. Un maître ou une maîtresse, un professeur ou qui ne serait pas mu par le feu sacré, ne serait que des mercenaires. Et rappelons-nous ça, que nous avons besoin de professeurs qui ont le feu sacré. Comment allumer en nous cette flamme? Eh bien, l'abbé Lionel Groulx disait, en imitant Jeanne Lajoie, en mettant comme elle, à côté du souci chrétien, le souci national dans l'éducation. Une petite institutrice peut donner une grande leçon. Gardons la leçon héroïque de Jeanne Lajoie. Il l'appelle la pucelle de Pembroke. C'est vrai qu'on a perdu le sens de notre histoire et le sens de notre foi. C'est terrible ce qui nous est arrivé. C'est presque invraisemblable. On se demande qu'est-ce qui s'est passé dans nos écoles, pourquoi c'est devenu comme ça. Dans le petit ouvrage qui m'a inspiré, on écrit en page 4 « Nous saluons avec gratitude nos concitoyens anglophones, de plus en plus nombreux qui cherchent à nous comprendre. Et nous gardons notre estime aux nobles fils de l'Irlande qui savent eux se souvenir. Et pensons à tous ceux qui parlent français et qui sont francophones. » Alors, on raconte l'histoire d'un prêtre éducateur visitant avec un groupe de jeunes Irlandais l'église Saint-Roch de Québec. Il dit « Ici, des centaines de jeunes immigrés d'Irlande, orphelins sans ressources, furent adoptés par des familles canadiennes françaises. Moi, j'avais deux oncles francophones irlandais. À genoux, mes enfants, disait-il, baisons avec respect le pavé du temple, témoin d'un si beau geste. Pour remercier la Providence et pour réparer, écoutez bien, l'ingratitude des nôtres, des Irlandais, qui persécutent odieusement la langue de ceux qui ont sauvé leur père. » C'est beau, cet esprit de pardon, souci de pardon, qui est la caractéristique la plus profonde de la charité chrétienne. L'amour total, qui répond à la demande de Jésus d'aimer nos ennemis ou ceux qui ne nous aiment pas. Jésus déclarait à la foule, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Eh bien, pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Oui, on n'a pas à se fâcher. C'est à nous de mettre en pratique et de vivre notre foi chrétienne totalement, et on le sait. Mais c'est difficile.